Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
Vous écoutez
Martino,
Cube Radio.
Alors, une histoire incroyable quand même. Donc, on aurait trouvé une bouteille qui aurait été lancée à la mer, avec un message dedans, bien sûr, qui aurait été lancée à la mer par une jeune passagère du Titanic la veille du naufrage. C'est quand même l'histoire du Titanic. Qui n'est pas passionné par ça? Donc, on va parler à M. Daniel Bourgault, qui est professeur en océanographie à l'Université du Québec à Rimouski. Bonjour, M. Bourgault.
Bonjour, M. Martino.
Quelle histoire, quand même. Bon, cette bouteille-là a été retrouvée quand? Elle vient d'où?
C'est une bouteille qui a été retrouvée à Hopewell Rock, c'est dans la baie de Fundy au Nouveau-Brunswick, qui a été trouvée en juin 2017 par une famille, les Chafous, qui prenaient une balade comme ça sur la plage.
Sur la plage, donc, on dit que c'est vieux de 109 ans. Est-ce que ça peut être un faux? Est-ce que ça peut être quelqu'un qui a mis un vieux papier puis qui a écrit là-dessus puis qui a lancé ça à la bouteille en voulant faire une blague?
Ah ben oui, c'est tout à fait possible. C'est le premier doute qui nous vient à l'esprit. C'est tellement exceptionnel comme découverte que c'est la première impression qui nous est venue, qui est venue à tout le monde, qui vient aux gens de façon spontanée. Mais on a quand même pris l'objet là de façon sérieuse. On n'a pas balayé du revers de la main comme ça, juste sur cette base-là, parce que des choses exceptionnelles, ça arrive parfois. Et du moins, toutes les analyses qu'on a faites jusqu'à maintenant ne nous a pas permis de démasquer un faussaire. Mais on n'est pas encore prêt non plus à statuer, à savoir si c'est réellement un vrai ou un faux.
Et là, vous devez quoi? Examiner le papier, examiner la bouteille pour essayer de justement dater ces documents-là?
Oui, tout à fait. Donc, il y a des analyses de la bouteille, de l'analyse visuelle de la bouteille, de ce qu'on sait de comment les bouteilles étaient faites à l'époque. C'est du verre soufflé, entre autres. Il y a des analyses chimiques du verre qui a été faite, des analyses au radiocarbone sur le bouchon de liège et sur un peu de papier qu'il y avait autour du bouchon de liège. On n'a pas fait d'analyse au radiocarbone sur de la lettre comme telle parce que c'est une analyse destructive, puis là, on n'était pas prêt à prélever un échantillon. Mais toutes ces analyses-là collent bien avec un vieil objet de ces années-là, donc une vieille bouteille, un vieux bouchon de liège, ça colle passablement bien avec les dates présumées.
Et ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, là, la lettre dit « Je jette cette bouteille à la mer au milieu de l'Atlantique. Nous devons arriver à New York dans quelques jours. Si quelqu'un la trouve, prévenez la famille Lefebvre à Liévin. » Et la missive est datée du 13 avril 1912. J'imagine bien sûr qu'il y a quelqu'un qui a vérifié la liste des passagers pour savoir s'il y avait vraiment des passagers de ce nom-là. On dit qu'elle avait 13 ans, cette jeune fille-là.
Oui, absolument. Donc, tout est crédible. Il y avait Mathilde Lefebvre qui avait presque 13 ans. Elle était là avec sa mère, Marie Daumont et ses soeurs. Ils ont tous péri dans la catastrophe. Donc, tout ça, c'est bien documenté et puis tout ça, c'est crédible.
Elle a péri, donc, la jeune fille de 13 ans?
Oui, avec toute sa famille. Et leur père, Franck Lefebvre, était, lui, déjà aux États-Unis. Il était parti une année avant. Comme des familles faisaient à l'époque, un peu le rêve américain, aller s'installer aux États-Unis pour travailler. Le père partait parfois seul ou avec un membre ou deux de la famille, puis la famille les rejoignait après si tout se passait bien. Et donc, c'était pour eux, le rêve américain là, qui s'en venait.
Il y a quelque chose de très touchant là-dedans. On imagine, on a des images dans la tête de la petite fille qui crie ça, puis qui met ça dans sa bouteille, puis qui a tout l'espoir, puis tout ça. Puis le lendemain, 24 heures après, arrive ce drame. C'est épouvantable.
Oui. Non, c'est épouvantable, effectivement. C'est fascinant d'avoir peut-être entre les mains un objet qui vient du naufrage. Oui.
Est-ce qu'il y en a beaucoup comme ça? C'est la seule lettre du genre qui existe ou quoi?
Non, du Titanic, il y a eu déjà trois bouteilles à la mer avec des lettres dedans
qui ont été
prétendument en provenance du Titanic. Mais de ces trois-là, il n'y en a qu'une seule qui a été authentifiée. C'est une lettre qui a été lancé assez peu de temps après le départ par un homme qui s'appelle Jeremiah Burke. Une bouteille, un message assez banal aussi, pas du tout un message catastrophe. Cette bouteille-là a été retrouvée quelques mois après, donc en 1912, sur les plages d'Irlande. Et puis là, hors de tout doute, c'est réellement une bouteille qui avait été lancée. C'est assez commun, hein, les gens, de lancer des bouteilles à la mer. On le faisait un peu pour le fun. Ça se fait encore aujourd'hui. Et il y a eu deux autres canulars qui ont été trouvés, deux autres bouteilles qui ont prétendaient être des bouteilles, une retrouvée en Islande puis une sur les côtes est américaines. Ça, c'était aussi dans les années 1912, dans ces années-là. Mais ces deux autres bouteilles-là ont été déterminés comme étant des canulars. Entre autres, une des bouteilles qui était signée d'un passager qui n'était absolument pas à bord du Titanic.
Ah oui. Et cette lettre-là, si elle est authentifiée, là, si vraiment elle est authentifiée, soudainement, elle va avoir une valeur. Hein. Vous savez qu'il y a des collectionneurs qui sont obsédés par le Titanic et qui paieraient une fortune pour mettre la main sur cette lettre-là. Elle va appartenir à qui, cette lettre-là? Et elle va se retrouver quoi, dans un musée ou dans une collection privée?
C'est une bonne question. C'est à ce moment-ci, on ne s'est pas du tout intéressé à cette question-là. C'est une question qui ne relève pas du tout de notre expertise non plus. Mmh. En ce moment, la bouteille, bon, c'est les découvrants qui leur appartient. Est-ce qu'après, il y a d'autres conditions, si étant donné que c'est un artefact? Là, moi, je suis vraiment pas en position de savoir qu'est-ce qui peut advenir de cette bouteille éventuellement.
Et comment elle s'est rendue chez vous? Parce que vous dites qu'elle a été retrouvée, là, elle n'a pas été retrouvée à Rimouski. Là, donc, comment elle s'est retrouvée à votre université?
Oui, le chemin exact, je le connais pas précisément, mais la famille Cherfou était évidemment fascinée par ce qu'il y avait entre les mains. Il fallait qu'il en parle à quelqu'un. Puis eux étaient aussi dans le doute, puis ils voulaient faire une expertise. Donc, eux, du Nouveau-Brunswick, de fil en aiguille, je sais pas exactement, mais on a été, un de mes collègues historiens à l'UQAR, Maxime Goyer, a été contacté par les Cherfou éventuellement, parce que bon, on savait qu'on avait, nous, peut-être une expertise ici pour s'y intéresser.
Donc, vous l'avez tenue dans vos mains, cette lettre-là, là?
Oui, oui, on l'a eu entre les mains, tout à fait. On l'a bien regardé sous tous les angles.
Non, mais c'est un mythe moderne, le Titanic, là, vraiment. C'est comme, je sais pas, c'est comme l'Odyssée d'Homère, là. C'est un mythe, puis c'est la fable de c'est presque Icare, là, la société industrielle qui avait de grandes prétentions, qui a finalement coulé. Il y a toute une mythologie autour de ça.
Ah oui, absolument. Puis c'est pour ça que l'objet est bien intéressant en termes d'éléments de recherche, parce que c'est très une recherche qui mobilise toutes sortes de disciplines. C'est réellement un projet multidisciplinaire. Bon, moi, je m'intéresse au courant, la courantologie, comment une bouteille comme ça aurait pu dériver. Mais tout ce que vous dites, la partie culturelle, la partie historique, tout ce qui entoure l'histoire du Titanic, c'est fascinant.
Monsieur Bourgault, il y a des gens qui, dans leur champ d'expertise, ce sont les courants, pour vrai?
Ah ben oui, ben c'est mon propre champ d'expertise.
Ah oui?
Oui, ben moi je suis océanographe de physicien, donc oui. Mes recherches, ce que j'enseigne et tout, c'est la physique des océans, et donc c'est les courants, les marées, comment la température de l'eau change, la salinité, etc. Donc c'est il y a une discipline effectivement qui est la mienne, qui est la physique des océans.
Et donc j'imagine dans le cas de tsunami par exemple, s'il y a un tremblement de terre souterrain sous un océan, on fait affaire à des gens comme vous pour savoir dans quelle direction va s'en aller les ondes ou quoi?
Exactement, il y a des c'est pas mon expertise à moi précisément, oui. Mais j'ai des collègues qui s'intéressent aux tsunamis, comment les prévoir ou les impacts qu'il peut y avoir. Ça relève tout à fait d'océanographie physique, en effet.
Et donc, vous dites, vous, que vous avez calculé là, où était à peu près le Titanic à cette journée-là, lorsqu'elle a jeté sa bouteille, et là, vous calculez les courants. Est-ce que ça se peut que, justement, cette bouteille-là se ramasse où elle a été retrouvée? Est-ce que c'est crédible? C'est un de vos champs de recherche, là?
C'est exactement ça. Pourquoi moi, je fais partie de cette équipe-là, c'est vraiment pour cette expertise-là, pour ma connaissance des courants, mais aussi évidemment les capacités de faire des simulations à l'ordinateur pour essayer de resimuler à l'époque, en 1912, un objet lancé là, est-ce qu'il aurait pu se retrouver sur les côtes canadiennes. Je collabore avec des océanographes, donc
oui.
Norvégiens aussi. Les Norvégiens ont particulièrement une expertise pour ce genre de simulation-là à l'ordinateur. Puis nous, ce qu'on dit, c'est que la probabilité est assez faible parce que les courants dominants emmènent la continuité du Gulf Stream, là, qui est un courant qui va vers l'Europe. Donc, un objet laissé où le Titanic était irait fort plus probablement vers les côtes européennes.
Ah oui?
Oui, c'est là que les courants sont dominants.
Ah donc c'est un bémol, c'est ça remet en question peut-être l'authenticité de la lettre un peu, selon vous?
Ben, ça met ça en termes de probabilité. Il y a une faible probabilité, mais elle n'est pas impossible. Donc, des événements exceptionnels, il y en a. On peut au moins pas dire, on peut pas dire c'est impossible que. Non, c'est quand même possible, mais ça reste assez faible, effectivement.
Ah, totalement passionnant, vraiment. Je savais pas qu'il y avait des experts en courant marin. Merci beaucoup.
Oui.
Merci, M. Daniel Bourgault, professeur en océanographie à l'Université du Québec à Rimouski. Bonne journée.
Merci, ça m'a fait plaisir. Au revoir.